Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
C'est sur Twitter du TIS, écoutons maintenant le bulletin d'information. L'Indonésie fait la campagne pour son projet d'adhésion au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'Indonésie participera à la 40e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Voici le bulletin complet. Le gouvernement indonésien fera campagne pour son projet d'adhésion de l'Indonésie au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans la participation à la 40e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, en Suisse. Le plan a été présenté par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, jeudi à Jakarta. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, assistera à la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Armanata a déclaré que le thème de la campagne pour l'adhésion de l'Indonésie au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies était « True Partner for Democracy, Development and Social Justice » ou en français « Le véritable partenaire de la démocratie, le développement et la justice sociale ». La sélection du membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies aura lieu en novembre 2019 pour la période d'adhésion de 2020 à 2022.
Selain menghadiri sidang Dewan HAM, Ibu Menteri juga akan memanfaatkan kesempatan ini.
En plus d'assister à la session du Conseil des droits de l'homme, le ministre fera également une campagne de la candidature indonésienne en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2020 à 2022. Le plan, cette élection aura lieu en novembre 2019. Comme vous le savez, le thème indonésien de la candidature est le véritable partenaire de la démocratie, du développement et de la justice sociale. Tandis que le directeur des droits de l'homme du ministère des Affaires étrangères, Ahsanul Habib, a déclaré que l'Indonésie en fit assez pour siéger au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour représenter la région Asie-Pacifique. Selon lui, quatre pays seront en lice pour cette région, y compris l'Indonésie, à savoir le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l'Iran et les îles Marshall. Il est optimiste que l'Indonésie sera en mesure de couper le poste de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies compte tenu de son engagement historique en faveur de la promotion des valeurs des droits de l'homme au niveau national, régional et international. Le ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, participera à la 30e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, en Suisse. La réunion se tiendra du 25 février au 22 mars. Le directeur des droits de l'homme du ministère indonésien des Affaires étrangères, Sanul Habib, a déclaré jeudi aux journalistes que la présence de l'Indonésie visait à transmettre le point de vue principal de l'Indonésie sur le renforcement des valeurs des droits de l'homme au niveau multilatéral, ainsi que progressera au niveau national et régional. Selon lui, lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Indonésie soulèvera la question de la protection des droits de l'homme dans le respect des intérêts nationaux. La présence du ministre des Affaires étrangères à la session du Conseil des droits de l'homme est une forme de l'engagement de l'Indonésie dans la promotion et la protection des valeurs des droits de l'homme. Ce que nous allons proposer, c'est bien que ce qui va dans le sens des intérêts nationaux, des intérêts de l'Indonésie. Ahsanul Habib a expliqué que certains des ordres du jour qui seront discutés lors de la participation de l'Indonésie à la 40e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, y compris la question de Palestine, Myanmar, y compris la question des droits civils, des droits économiques et socioculturels et droits des groupes vulnérables, autonomisation des femmes, protection de l'enfance et handicap. En plus d'assister à la 40e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Indonésie tiendra également un certain nombre de réunions bilatérales au niveau du ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, tiendra au moins 15 réunions bilatérales. Au cours de la réunion, diverses questions d'intérêt commun au niveau international seront discutées, notamment diverses questions spécifiques relatives aux relations bilatérales de l'Indonésie avec le pays partenaire. Le ministre coordinateur indonésien des Affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Indonésie, Rob Swartboot, se sont rencontrés à l'hôtel de Raffles à Jakarta mercredi le 20 février 2019 pour discuter de nombreuses questions relatives à la coopération maritime dans le cadre du forum maritime bilatéral. Dans son discours d'ouverture, le ministre Luhut a déclaré que l'Indonésie avait coopéré avec de nombreux pays dans divers secteurs.
Indonesian maritime diplomacy is prepared to provide an outline of Indonesian maritime vision which.
La diplomatie maritime indonésienne est disposée à fournir un aperçu de la vision maritime indonésienne qui vise à répondre aux défis internationaux et à d'autres questions connexes. La diplomatie maritime devient la partie intégrante de la politique étrangère indonésienne. L'Indonésie conduit à une coopération accrue, non seulement multilatérale, mais aussi bilatérale. En tant que partie intégrante de la diplomatie maritime du forum bilatéral coordonné par le ministère de la Coordination des Affaires maritimes, une coopération bilatérale a été mise en place entre plusieurs pays tels que les États-Unis, les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud. Comme nous les avons tués, l'Indonésie et les Pays-Bas à s'associer dans un partenariat égal, mutuel et bénéfique. La participation de l'Indonésie à l'IORA encourage également l'Indonésie à promouvoir un assistant technique et un renforcement des capacités ainsi que des tests échanges des informations et des sciences. Le ministre Luhut a ajouté que certaines coopérations avaient été prioritées et avaient été intensifiées et établies, y compris la coopération dans le secteur maritime lors de la création du Forum maritime bilatéral 2016. Le protocole d'accord du secteur maritime entre les Pays-Bas et l'Indonésie a été signé en 2016. Lors de la visite en travail du président Joko Widodo aux Pays-Bas, le rôle important du développement des deux secteurs maritimes est à la base du protocole d'accord. Le maire de Surabaya, Tri Risma Hari Ini, a transmis mardi au siège des Nations Unies à New York le matériel sur la sécurité alimentaire pour réduire la pauvreté. Pour la manutention de la sécurité alimentaire, la ville de Surabaya à Jaffaès a mis en œuvre un programme agriculture urbaine depuis 2010. Comme cité par Antara le communiqué de presse des relations publiques de la ville de Surabaya mercredi, le maire de Surabaya l'a fait savoir lorsqu'elle était orateur en forum de l'ONU, l'événement qui a réuni environ 193 représentants des pays membres permanents de l'ONU et l'un des forums mondiaux les plus importants, qui a invité plusieurs maires et gouverneurs qui sont sourcés à devenir des orateurs. À cette occasion, Tri Risma Hari Ini a déclaré que l'agriculture urbaine qui est mise en place par le gouvernement de la ville de Surabaya n'utilisait pas de pesticides, utilisait uniquement des engrais naturels. La coopération dans le domaine de la science médicale est en cours de développement par l'Institut de l'agriculture de Bogor, IPB, et l'Université Sagaing du Japon. Le cancelier de IPB, Arif Satria, a expliqué jeudi à Bogor, dans le cadre des relations publiques du BIP, que la coopération dans le domaine de la science médicale permettait à l'IPB et l'Université de Saga renforcer la coopération existante entre les deux parties. Vendredi dernier, Arif Satya et le chancelier de l'Université Saga, Koji Miyazaki du campus de Dermaga de IPB Bogosia Fadles, ont signé un contrat de coopération. Le renforcement de la coopération cette fois-ci est sur la coopération dans le domaine universitaire, notamment les échanges d'enseignants et d'élèves, leurs recherches communes, les publications et les colloques. La ville de Bandung était participée dans le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et les États-Unis qui se tiendra à Austin en juillet prochain. Le plan a été révélé lorsque le consul général de la République d'Indonésie à Austin, Nana Yuliana, a rencontré le maire adjoint de Bandung, Yana Mulyana, à Bandung mercredi. Comme a rapporté l'Agence nationale de nouvelles des radios, la ville de Bandung a été impliquée dans cette commémoration. Car la ville de Bandung avait coopéré avec la ville de Fort Worth en Amérique sous la forme de la ville jumelle depuis 1992. Nana Yuliana a invité la municipalité Bandung à suivre certains ordres du jour à tenir Austin comme le mode des expositions des produits indonésiens locaux. C'est sur Dietotis, c'était le journal aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
C'est retard après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Cachemire, problème pour l'Inde et le Pakistan ». La semaine dernière, un attentat suicide au Cachemire indien a tué 40 membres de la police paramilitaire indienne. Après cette attaque, l'Inde a accusé le rôle de groupe musulman au Pakistan. Cela se passait quelques jours seulement avant la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, au Pakistan, qui s'est ensuite rendu en Inde. Cette attaque a accru la tension des relations du Pakistan et l'Inde. Au cours de sa visite, Mohammed bin Salman a apporté des investissements dans chaque pays. Au Pakistan, l'Arabie Saoudite a investi 20 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, en Inde, la valeur d'investissement de l'Arabie Saoudite est 5 fois par rapport au Pakistan. En plus de la mission économique, le prince Mohammed bin Salman a également promis une médiation sur la question du Cachemire. Bien que cette mission ait réussi, elle a été marquée par le refus de l'entrée d'un avion qui a amené le prince Mohammed en Inde au motif qu'il venait directement du Pakistan, de sorte que l'avion est retourné à Riyad puis est entré en Inde. Le Cachemire, y compris le Jammu, le Cachemire et le Ladakh, est une région contestée par les deux pays depuis l'indépendance en 1947. L'histoire affirme que le Maharaja Cachemire a décidé de rejoindre l'Inde plutôt que le Pakistan. Il y a eu une guerre pendant 2 ans et à la fin de la guerre, les forces pakistanaises ne se sont pas retirées du Cachemire. Enfin, le Cachemire est divisé en deux. L'Inde et le Pakistan se sont battus à 2 reprises pour contrôler pleinement le Cachemire. En revanche, certaines parties de l'est du Cachemire ont été lentement occupées par la Chine depuis les années 50. Le problème est maintenant plus compliqué car l'Inde et le Pakistan sont actuellement deux pays dotés de puissance nucléaire. Les Nations Unies ont tenté une médiation en proposant un référendum sur le Cachemire soutenu par les Indiens. Soutenant initialement comme tenu un statut éventuel du Cachemire en tant que territoire souverain, l'Inde a par la suite refusé le référendum. Personne ne veut d'une belle région comme le Cachemire frappée par un conflit armé. Qu'il soit négocié ou non, il doit y avoir une solution pour le Cachemire. Parce que sans la bonne solution, les victimes sont toujours les habitants du Cachemire. La question maintenant, le Pakistan et l'Inde seront-ils disposés si le peuple cachemirien choisit sa propre souveraineté et ne rejoint pas les deux pays? C'est Ritor, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui. Le 22 février. Le 22 février 1958, la République arabe unie été signée. La République arabe unie est un pays formé entre 1958 et 1961. La République est une combinaison de l'Égypte et de la Syrie. La République arabe unie est l'idée de Jamal Abdel Nasser. La République arabe unie est le premier pas vers la réalisation d'un pays panarabe. Le président Nasser et le président Choukri Al-Kouadli ont signé l'accord d'unité le 22 février 1958. Nasser a été nommé président de la République arabe unie et le Caire devenait la capitale. Le 22 février 1997, le mouton Dolly, le premier mammifère cloné, a été annoncé. Le 22 février 1997, une équipe de scientifiques britanniques dirigée par Ian Wilmut à l'Institut Roslin près d'Edimbourg, en Écosse, a annoncé l'existence d'une brebis dénommée Dolly. Dolly est spéciale car elle est le premier mammifère à être complètement cloné. Cette étude de clonage est une collaboration de l'Institut Roslin qui fait partie de l'Université d'Edimbourg et de la Société de biotechnologie PPL Thérapeutique. Le 22 février 2012, Kevin Rudd a démissionné de son poste. Le ministre australien des Affaires étrangères, Kevin Rudd, a annoncé d'avoir démissionné de son poste lors d'une conférence de presse en marge d'une visite d'État à Washington, aux États-Unis, le 22 février 2012. Cette démission s'explique par le fait qu'il estimait ne plus recevoir le soutien et la confiance du Premier ministre Julia Gillard. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Jika saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati, caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Awal mula hati ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari.
Sejak cerita, setelah sang song intitulé Firasatku, chanté par Randy Pandugo feat. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Et voici donc comment l'Indonésie a intitulé l'Indonésie et la Corée du Sud réactivent les négociations de l'accord CEPA. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre « L'Indonésie et la Corée du Sud réactivent les négociations de l'accord CEPA ». Le gouvernement indonésien a convenu de réactiver la négociation d'un accord de partenariat économique global avec la Corée du Sud, ou IKCEPA. Cet accord avait été échoué en 2014. Le ministre indonésien du commerce, Enggartia Stolokita, et le ministre sud-coréen de l'industrie et du commerce, Yoon Chung Kim, ont signé la négociation de cet accord à Jakarta mardi le 19 février. À cette occasion, le ministre Enggartia Stolokita a déclaré que l'initiation devrait attendre 30 milliards de dollars américains.
Relaunch kesepakatan ini juga.
Le relancement de cet accord a été également continué avec un forum d'affaires qui a réuni des groupes d'entreprises indonésiens et coréens, tant en termes d'investissement que de commerce. Par conséquent, l'objectif fixé par les deux chefs d'État est d'environ 30 milliards de dollars américains en 3 ans. Nous avons également convenu que cet accord a été signé en novembre lorsque le chef d'État se rencontre. Ce qui signifie qu'elle doit en principe être terminée avant novembre. Enggartia Stolokita a déclaré que les deux pays concluront un accord avantageux pour les deux parties, surtout dans les domaines des exportations, des importations et des investissements. Selon lui, la discussion sur la renégociation a été faite depuis novembre dernier. Il a pour objectif que l'accord commercial avec la Corée du Sud puisse être achevé en novembre 2019. Ainsi, l'objectif annoncé par les deux chefs d'État de 30 milliards de dollars américains au cours des 3 prochaines années peut être atteint. Le ministre Ngartia Stalokita a ajouté que les négociations visaient à atteindre les objectifs économiques des deux pays qui devraient renforcer les relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement au plus haut niveau. Il a expliqué, parmi ceux qui seront inclus dans l'accord de coopération sont entre autres la réduction des tarifs des droits d'importation pour les produits des deux pays. En outre, selon Ngartia Sto, cet accord de coopération facilitera également l'entrée d'investissement de la Corée du Sud en Indonésie. Pendant ce temps, le ministre sud-coréen de l'Industrie et du Commerce, Kim Yun-chung, a déclaré que l'Indonésie était le principal partenaire de la Corée du Sud en Asie du Sud-Est. Il espère que la coopération avec l'Indonésie augmentera la participation des deux pays à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Jusqu'à présent, les principaux produits d'exportation de l'Indonésie vers la Corée du Sud comprennent le charbon, le cuivre, le caoutchouc, le bois et l'huile de palme. Dans le même temps, la Corée du Sud exporte des produits pétroliers, des navires et des produits électroniques vers l'Indonésie. Serviteur, c'était mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta.
Voice of Indonesia.
C'était la deuxième chanson intitulée Sebuah Rasa, chantée par Agnes Monica. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, serviteurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel visitant la place Peuyeon qui se trouve à Gunung Kidul, Java Central. Gunung Kidul, situé dans la province spéciale de Yogyakarta, possède un potentiel touristique incroyable. La place Peuyeon est une nouvelle destination et son accès de la route était ouverte en 2017. La place Peuyeon, qui est située au village Kanigoro dans le district Saptosari en résidence Gunung Kidul, offre une atmosphère calme et paisible. Cette place exotique est flanquée des montagnes typiques de Gunung Kidul, cachant ainsi la place Peuyeon de la foule. Dans la partie ouest, vous verrez une route naturelle sur la falaise qui convient au camping. La sensation de camper au bord de la place Peuyeon peut certainement être une expérience de vacances inoubliable. La vue sur la place est également belle avec la présence de pandanus autour de la place. L'emplacement de la place sur la colline offrira une vue magnifique et apaisante. La place Peuyeon est située à environ 60 km de la ville de Yogyakarta. Pour atteindre la place, on a besoin de 2 heures. Depuis le parking, continue à marcher environ 500 mètres pour arriver à la place Peuyeon. Le long du sentier, vous serez gâté par une atmosphère naturelle paisible associée au chant des oiseaux. Pour accéder au rivage, il faut encore emprunter un simple escalier en bois qui descend d'une falaise d'environ 4 mètres de haut. Le billet pour entrer sur la place Peuyeon est 5000 rupiah seulement. Sur la place Peuyeon, il y a une étendue de sable blanc associée aux vagues océaniques bleues et luxuriantes aux feuilles de pandanus donnant la place d'une apparence plus naturelle. Pour ceux qui aiment la pêche, cette place est également un lieu de la prédilection pour la pêche. Se rendre à la place Peuyeon n'est pas difficile, en particulier pour ceux qui conduisent une moto ou une voiture privée. Mais pour ceux d'entre vous qui utilisent le transport public, tel que l'autobus, vous pouvez également vous rendre facilement à la place Peuyeon, parce que vous pouvez vous arrêter au terminal d'autobus de la ville Gunung Kidul. Vous continuerez ensuite en moto louée jusqu'au village Kanigoro pour rejoindre la place Peuyeon. Avant de partir pour la place Peuyeon, vous devez d'abord surveiller le temps qu'il fait pour ne pas nuire à vos vacances. En outre, vous devez également préparer des nourritures, un boisson, des vêtements et des médicaments. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir, la voix de l'Indonésie pour le monde. L'Indonésie pour le monde. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Coba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku akan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi.
Chers auditeurs, c'était la chanson d'Anji intitulée Menunggu Kamu. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur, intitulée La Journée d'Istiqlal.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. C'est un plaisir de vous rencontrer dans le programme L'Indonésie en couleur. Dans cette édition, nous vous informons sur la journée de l'Istiqlal. Alors, soyez avec nous sur www.voice.id. Le 22 février, il y a 41 ans, la mosquée Istiqlal a été inaugurée pour devenir l'une des plus grandes mosquées du monde. Fondée dans le cadre du projet de construction du phare de Sukarno avec la pose de la première pierre le 24 août 1961, la mosquée au cœur de Jakarta a été inaugurée par le président Suharto le 22 février 1978. Depuis ce moment, le 22 février est célébré comme la journée d'Istiqlal. Istiqlal est toujours considéré comme la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est. Cette mosquée s'étend sur une superficie de 9,32 hectares. Sa capacité peut également accueillir jusqu'à 100 000 fidèles pour y effectuer des services de prière. Non seulement magnifique, selon le chef de la section du protocole et des services touristiques de la mosquée Istiqlal, Abu Huraira, la mosquée Istiqlal incarne également divers symboles.
Masjid ini selain sebagai simbol kemerdekaan karena dibangun.
Cette mosquée est un symbole de l'indépendance car elle a été construite sous la forme d'une manifestation de la gratitude du peuple indonésien pour la grâce de l'indépendance. Elle porte dans le nom d'Istiqlal qui signifie indépendance en arabe. De plus, cette mosquée devrait être un symbole de tolérance religieuse. C'est pourquoi elle a été construite à quelques mètres de la cathédrale. Et ce qui est unique, cette mosquée a été conçue par un prêtre, Monsieur Frédéric Silaban. Située au cœur de la capitale, une mosquée construite sur l'entraide de la part des Indonésiens de confession religieuse et ethnique est non seulement un lieu de culte musulman, mais également l'une des attractions touristiques de Jakarta. Abu Huraira a expliqué que depuis 3 ans, cette mosquée est devenue une destination touristique incontournable à Jakarta. Les touristes étrangers et les invités de l'État sont programmés pour y venir. Aujourd'hui, le nombre de touristes étrangers non musulmans se rendant à la mosquée Istiqlal augmente chaque jour. Les touristes les plus visités viennent de Corée et du Japon.
Sekarang, khusus di hari di akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu, kami bisa menerima.
Désormais, plus précisément le week-end, vendredi, samedi, dimanche, nous pouvons recevoir des invités de 300 à 400 personnes. Le montant est uniquement constitué de touristes étrangers non musulmans. En semaine, du lundi au vendredi, environ 200 personnes. Ce nombre augmentera s'il y a des vacances en Europe ou en Asie du Sud-Est. De prières en congrégation, la mosquée Istiqlal propose chaque jour diverses activités. Le deuxième et quatrième dimanche, il y a une étude de Darut Tauhid et de Darul Coran. À 41 ans de la mosquée Istiqlal, il espère que la mosquée, fière de la nation indonésienne, pourra devenir le centre des activités de tout groupe ou congrégation musulmane. Il espère également que davantage de personnes de différentes religions visiteront la mosquée Istiqlal. Chers auditeurs, c'est l'Indonésien Kulapok ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Oleh waktu hanya untuk saling Voice of Indonesia.
Di gitar tuk melupakan cerita lama tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu baik untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu baik
Sejak cerita, telah sangsung dan titulé terlalu pahit Shanti Paxling Fit Vizi. Vous êtes toujours avec nous. Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, sejak cerita, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc le magazine musical. Pour ce soir, nous vous informons sur une chanson provenant de Java Central, Gambang Suling. Gambang suling etun sangsong originaire de la région de Java Central créé par Kinarto Sabdo. Les paroles ne contiennent que 5 phrases. En plus d'être simple, cette chanson est également connue comme une chanson pour enfants. Certains pensent que cette chanson est créée comme une expression de tristesse. Cependant, la chanson Gambang Suling parle d'un instrument de flûte au son très agréable à écouter. Suling est l'un des instruments avant indonésiens traditionnels. Outre que Java Central, certaines régions d'Indonésie possèdent également des flûtes comme instruments de musique traditionnelle tels que Java de l'Ouest et Sumatra de l'Ouest. En général, les flûtes sont en bambou. Bon, c'est Rita, voici la chanson de Sujiwo Tejo dont le titre est Gambang Suling. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Rame-rame ngoyak toro mabur mulu aduk nusup si lemeng mekowa alok-alok layune kesandung-sandung tope siarane Kan
Tuhan dan ku pone kapan komplan jebulane sakape melek sarumuk ingkang kutu mestine amburu ucan kelangan telek meretan tremeng bebrayan urip ingkang prasojo.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33-25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.